Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 31. Un réveil de lune de miel. Les premiers mois qui suivirent l'étrange union de Monsieur de la Tremblay et de la fille du diable furent remplis par un enivrement des sens que Raoul, toujours passionnément amoureux, prit pour du bonheur. Or, le bonheur, de quelque nature qu'il puisse être, ne se raconte pas. Nous n'avons donc rien à dire de cette période éclairée par les lueurs voluptueuses de la lune de miel. Rien, si ce n'est qu'Hébé inculqua à Raoul un goût qui était devenu dominant chez elle, celui des sciences occultes. Seulement, il y avait une certaine conviction dans l'esprit d'Hébé, tandis que l'incrédulité de Raoul égalait sa curiosité. Il voulait apprendre, et quand il avait appris, il raillait la science qu'il venait d'acquérir. Raoul ne soupçonnait guère alors l'influence que des études ainsi faites devaient avoir sur tout le reste de sa vie. Hébé, après l'existence misérable qu'elle avait menée auprès de la mère Moloch, trouvait avec bonheur, ou plutôt avec ivresse, ce luxe qu'elle avait rêvé toute sa vie. Son amour pour son mari ne semblait d'ailleurs point se démentir, et elle lui témoignait cet amour avec tout l'emportement de sa nature ardente et sensuelle. Quant à la mère Moloch, Raoul, ne voulant pas exposer la mère adoptive de sa femme à être un beau matin traînée sur une clé comme une sorcière au milieu des huées de la populace, lui avait fait une petite pension, à la condition qu'elle s'établirait dans un village à quelque distance de Paris et qu'elle y vivrait tranquillement. La mère Moloch avait accepté avec joie et reconnaissance, et l'on n'entendait plus parler d'elle. Voilà où en étaient les choses au moment où nous retrouvons nos personnages. Chaque soir, au moment de se mettre au lit, les jeunes époux faisaient une légère collation. Jacques ne manquait jamais de placer sur une petite table, dans la chambre à coucher, un large plateau d'argent, sur lequel se trouvaient quelques pâtisseries, des confitures sèches, deux carafons et deux coupes en verre de Venise, admirables de forme, de ciselure et de dorure. L'un de ces carafons contenait de l'eau claire. L'autre était rempli d'un vieux vin de Xérès, étincelant sous les lumières comme des topazes en fusion. Après la collation, Hébé buvait un grand verre d'eau. Raoul vidait une coupe pleine du breuvage doré et généreux. Ceci était une habitude de tous les jours. Les deux époux se couchaient ensuite pour ne plus se réveiller qu'au matin. Or, une nuit, il arriva quelque chose de bizarre. Le sommeil de Raoul était plus profond qu'à l'ordinaire. Et cependant, vers 2 heures du matin, il fut tiré à demi de son engourdissement par une vive sensation de froid. Nous disons à demi, car M. de la Tremblay, en ce moment, n'était que très imparfaitement réveillé. Il lui sembla vaguement que le drap et les couvertures avaient glissé en bas du lit et ne l'abritaient plus. Il étendit la main pour s'en assurer. Cette main, en s'étendant, ne rencontra pas le corps d'Hébé, et la place qu'occupait ordinairement la jeune femme lui parut glacée. Raoul, surpris, allait s'assurer qu'il ne se trompait pas, mais il n'en eut point le temps. Son engourdissement quasi léthargique, un instant interrompu, reprit le dessus. Le sommeil fut victorieux, Raoul se rendormit. Au matin, en ouvrant les yeux, M. de la Tremblay ne se souvint qu'à peine de la vague impression de la nuit. Hébé, encore endormie, était auprès de lui, et dans son sommeil, elle souriait. Raoul, en se levant, se sentit la tête lourde comme après une orgie, et cependant il n'avait point la veille dépassé les limites de sa frugalité habituelle. Il ne parla pas à Hébé de l'incident que nous avons rapporté. Avant le soir, il l'avait oublié complètement. Durant les nuits suivantes, Raoul ne se réveilla point, mais chaque matin il éprouva cette étrange et inexplicable lourdeur de tête dont il ne pouvait deviner la cause. Au bout d'une semaine, Monsieur de la Tremblay, toujours vers les 2 heures du matin, se réveilla en éprouvant cette même sensation de froid qu'il avait déjà ressentie. Comme la première fois, il étendit la main. Comme la première fois, il lui sembla que la place d'Hébé était vide et qu'il était seul dans son lit. Enfin, comme la première fois, un sommeil trop lourd et trop invincible pour être naturel le rejeta brusquement sur l'oreiller qu'il voulait quitter. Au matin, les souvenirs de la nuit se retrouvèrent assez distincts pour que Raoul fût parfaitement certain qu'il n'avait pas rêvé. Ne m'as-tu point laissé seul un instant cette nuit ? Demanda-t-il à madame de la Tremblay. Hébé lui répondit en riant qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait dire. Raoul n'insista pas, mais une sorte de soupçon vague et de défiance instinctive prit naissance dans son esprit. Chacun sait qu'un peu de volonté énergique peut presque toujours triompher du sommeil le plus obstiné. Il n'est pas un chasseur et pas un voyageur qui n'en ait fait 100 fois l'expérience. « Je veux me réveiller à 4 heures du matin, » se dit-on en se couchant. Et l'on s'endort. Mais l'âme veille, servante docile. À l'heure dite, elle crie au corps d'ouvrir les yeux et le corps obéit. Raoul se donna l'ordre à lui-même de s'éveiller au milieu de la nuit. Il s'éveilla. Mais un voile épais et lourd pesait sur son intelligence. Il ne pouvait ni réfléchir ni coordonner ses idées. Cependant, il lui fut possible de s'assurer qu'il était seul dans la couche nuptiale. Il appela Hébé. Sa voix retentit dans le silence de l'appartement désert. Hébé ne répondit pas. Raoul voulut se lever pour aller à la recherche de sa femme, mais si sa volonté était forte, cet engourdissement dont nous avons déjà parlé était plus fort qu'elle. Le sommeil, au bout de quelques secondes, reprit tout son empire sur lui et garrotta de nouveau ses membres impuissants. Il n'en fallait pas tant pour métamorphoser la vague défiance de Raoul en un soupçon parfaitement arrêté. Sans doute, il repoussait encore avec horreur la pensée que sa femme pouvait le tromper. Mais à coup sûr, cependant, il y avait là un mystère qu'à tout prix, il fallait éclaircir. Pendant la journée du lendemain, Raoul s'abandonna à une préoccupation profonde. Cette préoccupation, Hébé s'efforça vainement de la combattre par ses caresses. Ses baisers ne purent chasser le nuage sombre qui obscurcissait le front de Raoul. Une chose surtout lui semblait inexplicable. C'était cette impuissance à rester éveillé, impuissance qu'il était bien certain de n'avoir jamais éprouvée jadis. Enfin, après bien des heures de réflexion, une idée se présenta à l'esprit de M. de la Tremblay. Idée étrange et terrible qui le fit trembler et pâlir. Un narcotique ? Mêlé au vin de Xérès que je bois chaque soir, expliquerait tout, se dit-il. Mais ce narcotique, une seule personne aurait intérêt à me le faire prendre. Hébé. Et si elle le faisait, dans quel but? Ainsi formulés, les raisonnements de Raoul le conduisaient droit à un abîme au fond duquel il ne pouvait regarder sans frémir. Et pourtant, la supposition qui venait de se présenter à lui était la seule vraisemblable et acceptable. Raoul aimait Hébé. Il l'aimait avec la même ardeur qu'au jour de leur mariage. Qu'on juge ce qu'il dut souffrir. Le soir arriva, et avec le soir, l'heure du coucher, cette heure si douce pour Monsieur de la Tremblay, quelques jours auparavant. Il fit honneur à la collation. Comme de coutume, il porta à ses lèvres la coupe de verre de Venise qu'Hébé avait voulu remplir elle-même de vin de Xérès. Seulement, profitant d'un moment où la jeune femme s'était éloignée de lui, il jeta sous la table le contenu de son verre. Hébé ne s'en aperçut pas. Les deux époux se mirent au lit. Raoul feignit de s'endormir presque aussitôt. Combien elles lui semblèrent longues, les heures qui suivirent ce moment. 20 fois il se dit que le jour allait bientôt paraître, que la nuit entière était écoulée et qu'Hébé ne quitterait pas ses côtés. Il se disait cela et il le croyait. Et il n'y avait pas une heure que cette fiévreuse insomnie était commencée. Le cœur de Raoul battait si fort qu'il lui semblait parfois qu'Hébé devait en entendre les irrégulières pulsations. La jeune femme, de son côté, semblait dormir. Soudain, le sang de Raoul s'arrêta dans ses veines. Hébé venait de faire un mouvement. Elle se souleva sur son coude et elle resta immobile dans cette pose pendant une seconde ou deux. Puis, elle se pencha vers son mari, comme si elle eût voulu étudier son sommeil. Raoul ne respirait pas. Hébé souleva la couverture et se glissa hors du lit, lentement, doucement, avec des précautions infinies. La chambre était obscure. Raoul, les yeux ouverts, regardait mais ne voyait rien. Le bruit des pieds nus d'Hébé s'étouffait sur l'épais tapis. Chapitre 32. Le mari et la femme, le maître et le valet. 3 ou 4 secondes se passèrent. Monsieur de la Tremblay ne savait pas si sa femme était encore dans la chambre ou si elle venait d'en sortir. Enfin, il entendit le bruit léger, presque imperceptible, que fait une porte en tournant sur ses gonds soigneusement huilés. Cette porte était celle d'un cabinet de toilette qui, par un escalier dérobé, communiquait avec le jardin de l'hôtel. Un autre cabinet, parallèle à celui-là, mais sans issue, se trouvait au fond de la chambre. Ce deuxième cabinet prenait également jour sur le jardin, par une fenêtre. La porte se referma, et le bruit d'un petit verrou intérieur, poussé par Hébé, arriva jusqu'à Monsieur de la Tremblay. À son tour, il se précipita hors du lit et courut à la porte contre le frêle panneau de laquelle il colla son oreille. Une fente imperceptible, mais qui suffisait cependant à laisser filtrer une faible lueur, lui permit de se convaincre qu'Hébé venait d'allumer de la lumière. Sans doute, la jeune femme s'habillait. Au bout de quelques minutes, la lumière s'éteignit. Monsieur de la Tremblay entendit ouvrir et refermer une seconde porte, celle de l'escalier dérobé. Hébé sortait. Où allait-elle? La suivre, cette nuit-là, était impossible. Raoul le comprit et ne l'essaya même pas. Seulement, il entra dans le second cabinet, et de même qu'il avait collé son oreille au panneau de la porte, il appuya son front brûlant contre la vitre, s'efforçant de percer les ténèbres épaisses qui enveloppaient le jardin, car nulle étoile ne brillait au ciel. Il sembla bien à Raoul qu'il entrevoyait une forme plus blanche se détacher sur l'obscurité. Mais cette forme s'évanouit aussitôt dans la direction d'une porte, qui depuis le jardin conduisait à une petite rue située derrière l'hôtel. L'absence d'Hébé dura 3 heures. 3 heures, 3 siècles d'agonie pour Raoul. Enfin, ce même bruit léger dans le cabinet, qui avait annoncé le départ de la jeune femme, annonça son retour. Raoul se rejeta sur le lit, en ayant soin de reprendre la position qu'il occupait au moment où Hébé l'avait laissé seul. Quelques instants se passèrent. Puis, Madame de la Tremblay, à droite et souple comme une couleuvre, souleva la couverture et se glissa dans le lit sans que Raoul l'eût entendu rentrer dans la chambre. Avons-nous besoin d'ajouter que le reste de la nuit se passa comme le commencement, sans que le chevalier eût seulement la pensée de chercher à s'endormir? Quand Hébé se réveilla, il était grand jour. Raoul, à côté d'elle, fermait les yeux comme en un calme sommeil. Hébé se pencha sur lui et mit un double baiser sur son front et sur ses lèvres. Raoul ouvrit les yeux et parut s'éveiller en sursaut. « Quoi ? Déjà le jour ? » murmura-t-il en se soulevant. Hébé le regarda et poussa un faible cri. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Raoul. « Comme tu es pâle ! » dit Hébé. « Moi ? Toi, mon pauvre ami, est-ce que tu souffres ? Pas le moins du monde ! « Aurais-tu mal dormi cette nuit ?»« Mal dormi ?» répéta le jeune homme en riant. « Mon sommeil n'a pas été interrompu une seconde. »« Mais alors, pourquoi cette pâleur ?»«
Je ne sais. Trop d'amour, peut-être. »«
Peut-être, en effet, » répondit Hébé avec un sourire de ménade enivrée. « Il faudra m'aimer moins, sais-tu bien, mon Raoul ? On dit que l'amour tue. »« Et qu'importe, il est doux de mourir pour avoir trop aimé. »
« Mais moi, je ne veux pas que tu meures. Je veux que tu vives, mon Raoul, bien longtemps, pour m'aimer toujours. »
Nous ne saurions donner une idée de l'adorable accent avec lequel Hébé prononçait ces charmantes paroles, non plus que de l'expression d'ardente tendresse qui rayonnait sur son front pur, qui débordait de ses beaux yeux. Raoul l'écoutait et la regardait, et il ne pouvait concilier et ses paroles et ses regards avec ce qui s'était passé quelques heures auparavant. Il lui semblait sentir sa raison s'égarer dans l'inextricable labyrinthe de ses pensées contradictoires. « Il faut en finir, se dit-il, et en finir vite, car si cela devait continuer ainsi, je deviendrais fou. » Dans l'après-midi, Hébé sortit et Raoul demeura seul à l'hôtel. Il sonna, Jacques se présenta aussitôt. « Mon ami, lui dit Monsieur de la Tremblay, va dire au concierge de l'hôtel que je n'y suis pour personne. » « Envoie tous les domestiques en course sous des prétextes que tu trouveras, et reviens ici. J'ai à te parler, et il faut que qui que ce soit ne puisse nous interrompre ni nous écouter. » Jacques obéit passivement. Au bout d'un demi-quart d'heure, il était de retour auprès de son maître. « Jacques, lui dit ce dernier, je crois que tu m'aimes.
« Plus que toute chose au monde, monsieur le chevalier, » répondit le valet d'une voix émue.
« Et tu m'es dévoué ?»«
À la vie, à la mort.
S'il faut me faire tuer pour vous le prouver, vous n'avez qu'un mot à dire. »
« Il est une autre manière de me témoigner ton dévouement. »«
Laquelle, monsieur le chevalier ? Laquelle ?»«
Une obéissance aveugle, une discrétion à toute épreuve. »
« Ah ! » murmura Jacques, « c'est trop peu de choses, cela. On obéit à quiconque a le droit de vous commander. On est discret quand il le faut, mais on ne se fait tuer joyeusement que pour les gens qu'on aime. »
Raoul ne put s'empêcher de sourire. « Mon pauvre enfant, console-toi, dit-il. Il est bien possible qu'un de ces jours, je mette ta vie en péril. »
« Ah ! Tant mieux ! » s'écria Jacques.
« Mais pour le moment, écoute-moi. »
« J'écoute, monsieur le chevalier, et de toutes mes forces. »«
Jacques, je vais te confier un secret. »«
Un secret ?»«
Oui, et d'une telle nature, d'une telle importance, que si je soupçonnais quelqu'un de l'avoir surpris ou deviné, je le tuerais. »«
Je pourrais peut-être vous en épargner la peine, monsieur le chevalier, » interrompit Jacques.
« Je ne suis pas bien fort, mais je suis adroit, et je crois qu'au besoin je jouerais joliment de l'épée ou du pistolet. »
« Jacques, » poursuivit Raoul d'une voix lente et triste.
« Jacques, je suis bien malheureux. » Le jeune valet de chambre tressaillit et devint pâle.
« Malheureux ? »
répéta-t-il avec une stupeur désolée.
Raoul fit signe que oui.
« Vous, monsieur le chevalier ? Vous ?
Moi-même.
Et pourquoi ?
J'aime ma femme, et je crois que ma femme me trompe. »
Raoul prononça ces paroles avec accablement.
Jacques secoua la tête d'un air incrédule.
« Ah, quant à cela, » répondit-il, « monsieur le chevalier, c'est impossible. »«
Impossible ? Complètement ?
Que veux-tu dire ?
Je veux dire que vous êtes le plus beau, le plus noble, le meilleur de tous les hommes, qu'il est impossible de ne pas vous aimer, et quand on vous aime, impossible de vous tromper. »
Un sourire mélancolique vint aux lèvres de Raoul.
« Mon pauvre Jacques, » répondit-il, « tout le monde, malheureusement, ne pense pas comme toi. Dans tous les cas, je réponds que Madame de la Tremblay est de mon avis.
Dieu le veuille, mais j'ai tout lieu d'en douter, et c'est pour éclaircir ce doute qui me tue que j'ai besoin de toi.
Que faut-il faire, monsieur le chevalier ?
Il faut d'abord que tu saches ce qui se passe, et je vais te le dire. » Et Raoul raconta à son valet de chambre tous les faits qui remplissent le chapitre précédent et le commencement de celui-ci. Jacques l'écoutait avec une épouvante muette mais manifeste, et qui se peignait clairement sur son visage.
« Tu comprends, » dit Raoul en terminant, « qu'il m'est absolument impossible de suivre moi-même Madame de la Tremblay d'assez près pour découvrir l'endroit où elle va. Je risquerais de lui donner l'éveil et de ne rien apprendre. Et tu comprends aussi que je veux tout savoir, car si elle me trompe, il me faut une vengeance éclatante. »
« C'est clair, cela, » appuya Jacques.
« Chaque nuit, » poursuivit Raoul, « Madame de la Tremblay quitte l'hôtel par l'escalier dérobé et sort du jardin par la petite porte. Il faut que pendant une nuit, pendant 10 si cela est nécessaire, tu sois embusqué dans la ruelle auprès de cette porte. Il faut que tu suives ma femme et que tu me rendes un compte exact de ce que tu verras. »
« Regardez cela comme fait, monsieur le chevalier.
Tu commenceras ce soir. »
« Avant minuit, je serai à mon poste.
Songe qu'il importe par-dessus tout que rien ne puisse trahir ta présence.
Monsieur le chevalier peut être tranquille, je serai complètement invisible. Et cependant, je ne quitterai pas Madame de la Tremblay plus que son ombre. »
« Fasse le ciel, » murmura Raoul, « que nous la trouvions innocente. » À ceci, Jacques ne répondit rien. Son naïf bon sens lui criait éloquemment qu'une femme n'endort guère son mari avec des narcotiques pour aller pratiquer des actes de vertu nocturnes et mystérieux.
« À cette nuit, » dit le chevalier.
« Comptez sur moi, » répliqua Jacques.
Chapitre 33 Les Croix-Rouges. Peu après cette conversation entre le maître et le valet, Hébé rentra. Elle fut joyeuse, tendre, charmante. Jamais elle n'avait mieux enlacé Raoul
dans les longs plis de soie et d'or, de cette ceinture qu'elle dérobait à Vénus, la mythologique et voluptueuse reine de Cythère. Elle est innocente, pensait Raoul, ou comme la sirène antique, elle me séduit pour mieux me perdre. Le soir venu, monsieur de la Tremblay, ainsi que la veille, feignit de boire. Mais ainsi que la veille, il jeta sous la table le contenu de son verre. Les choses se passèrent de la même façon que pendant les nuits précédentes. La jeune femme, un peu après minuit, quitta la couche nuptiale et sortit de la chambre, en fermant au verrou derrière elle la porte du cabinet de toilette. Raoul bondit à son poste d'observation. Il vit l'ombre blanche passer sur les massifs sombres du jardin. « Si Jacques est à son poste, se dit-il, demain matin je saurai tout. » 3 heures s'écoulèrent, puis Hébé vint reprendre sa place et s'endormit d'un calme et profond sommeil auprès de son mari, qui se sentait devenir fou d'angoisse et de rage. Enfin, le jour parut. Raoul, laissant Hébé, se leva et s'habilla rapidement. La première personne qui se présenta à lui dans l'antichambre fut Jacques. « Eh bien ? » lui demanda-t-il vivement. « Eh bien, monsieur le chevalier, répondit le valet, j'ai fait de mon mieux. Tu étais là ? Oui. Tu as suivi ? Oui. Et tu sais ?
Je sais où va madame de la Tremblay chaque nuit.
Ah ! S'écria Raoul, enfin !
Mais, poursuivit Jacques, si je sais où elle va, je ne sais pas encore ce qu'elle va y faire. Quoique, ajouta-t-il d'une voix plus basse, je craigne bien de le deviner.
Voyons, explique-toi.
Si monsieur le chevalier voulait prendre la peine de sortir avec moi pendant un instant, répliqua Jacques, mes explications seraient plus claires et singulièrement simplifiées.
Mon chapeau et mon épée, dit Raoul, et sortons.
Jacques courut chercher les 2 objets que demandait son maître et ils se dirigèrent ensemble vers le jardin. Jacques suivant le chevalier à une distance respectueuse. Arrivé à la petite porte, le valet hâta le pas, tira de sa poche une clé qu'il introduisit dans la serrure et ouvrit. Une fois dans la ruelle, il dit « Monsieur le chevalier, faut-il prendre la peine de regarder au-dessus de sa tête ?» Raoul leva les yeux. Un tilleul, planté dans le jardin non loin de la petite porte, étendait par-dessus le mur quelques-unes de ses branches, et son feuillage ombrageait la ruelle. À l'une de ses branches pendait une corde, dont l'extrémité arrivait à 5 pieds du sol.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda Raoul.
« Cela, monsieur le chevalier, c'est mon observatoire. »«
Que veux-tu dire ? » ?»«
Hier, après avoir eu l'honneur de recevoir les ordres de monsieur le chevalier, je suis venu reconnaître les lieux. La ruelle s'étend à droite et à gauche. Les 2 côtés sont des murs nus, sans un seul enfoncement pour se cacher. » J'ignorais de quel côté madame de la Tremblay dirigerait ses pas en sortant du jardin. Et je me suis dit que de quelque façon que je me déguisasse, il serait possible qu'elle vînt à passer auprès de moi et que dans tous les cas, elle pourrait s'apercevoir de la présence de quelqu'un dans la ruelle, en prendre défiance et rentrer aussitôt à l'hôtel. Ceci était assez embarrassant et je ne savais trop comment me tirer de cette situation fâcheuse. Lorsqu'une idée me vint. Je ne dis que rien ne me serait plus facile que de m'installer sur le chaperon du mur, précisément au-dessus de la porte, et lorsque madame de la Tremblay serait sortie et aurait fait 100 pas, de me mettre à sa poursuite sans danger d'être découvert. J'imaginais de plus d'attacher là cette corde, afin de m'en servir pour me laisser glisser et atteindre le sol sans avoir fait le moindre bruit.
« L'idée était bonne, en effet, » dit Raoul.
« Aussi, elle a réussi, on ne peut mieux. » J'ai vu madame de la Tremblay arriver dans le jardin. Elle a ouvert la porte, elle a suivi la ruelle du côté gauche, et quand j'ai cru qu'elle avait sur moi une avance suffisante, je suis descendue et je l'ai suivie à mon tour, en rasant la muraille, afin de pouvoir m'effacer plus facilement si madame venait à se retourner. Tout en parlant ainsi, Jacques entraînait son maître dans la direction que madame de la Tremblay avait suivie pendant la nuit précédente. Arrivé à l'extrémité de la ruelle, le valet prit à droite et poursuivit son récit un instant interrompu. « Quand j'atteignis cet angle, dit-il, madame de la Tremblay avait disparu. »«
Disparu ? » s'écria Raoul.
« Attendez, monsieur le chevalier, attendez. Je ne voyais plus madame, pour la raison bien simple qu'elle était montée dans une chaise à porteurs qui s'éloignait rapidement. Je suivis la chaise. Jacques cessa momentanément de parler, mais il marchait toujours. Le chemin que parcouraient le maître et le valet était une ruelle plus étroite que la première, et coupée à droite et à gauche, de distance en distance, par d'autres ruelles qui rendaient la circulation facile autour des jardins, d'un certain nombre d'hôtels et de petites maisons. Jacques allait lentement et paraissait étudier les murailles avec une attention singulière. « Que cherches-tu donc ? » lui demanda Raoul. Jacques fit quelques pas encore, puis il répondit en montrant une petite croix rouge grossièrement tracée sur le mur blanc, dans un endroit où une nouvelle issue coupait la ruelle à angle droit. « Voilà ce que je cherchais. Que signifie cette croix ? C'est un signe de reconnaissance que j'ai fait avec de la craie cette nuit, pour bien reconnaître le chemin par où j'aurais passé. Quand j'étais enfant et que j'allais dénicher des oiseaux dans les forêts, je ne manquais jamais d'entailler avec mon couteau l'écorce de certains arbres, et je n'avais en revenant qu'à suivre ces marques. Les autres enfants qui n'imitaient point mon exemple s'égaraient souvent. Moi, jamais. » En effet, sans les croix rouges tracées de distance en distance, il aurait été impossible à Jacques de se retrouver au milieu d'un véritable labyrinthe d'étroites ruelles et de grands murs. Les deux hommes marchèrent pendant 20 minutes environ. Au bout de ce temps, Jacques s'arrêta. Le maître et le valet étaient arrivés en face d'une porte à un seul battant, pratiquée dans une muraille très élevée. Au milieu de cette porte se voyait une croix rouge plus grande que toutes les autres. « C'est là, dit Jacques, c'est là que la chaise à porteur est entrée. J'ai marqué le panneau, je me suis caché dans l'angle là-bas et j'ai attendu. » Au bout de 2 heures et demie à peu près, la chaise à porteur est ressortie. Elle a parcouru de nouveau le même chemin qu'elle avait suivi pour venir. Tout près de l'hôtel de Monsieur le Chevalier, Madame est descendue de la chaise. Elle est rentrée, et un peu après, j'en ai fait autant. Voilà tout ce que je sais quant à présent. Connaître l'endroit où allait B, c'était assurément quelque chose, mais ce n'était point assez. Raoul et Jacques côtoyèrent la muraille dans laquelle était située la petite porte. Et, après avoir fait le tour d'un jardin qui devait être immense, ils se trouvèrent dans la rue de la Cerisaie. Là, entre 2 piliers d'un aspect assez noble, se voyait une large grille de fer, fermant l'entrée d'honneur de l'habitation. Mais, jusqu'à une hauteur de plus de 10 pieds, des planches très épaisses avaient été ajustées contre les barreaux de la grille, sans doute afin d'empêcher la vue de plonger sur la maison. Une chaînette de fer servait à mettre en branle une cloche de dimension importante, afin de prévenir les habitants du logis de l'arrivée de quelques visiteurs. La maison ou l'hôtel dont il s'agit, et dont on ne voyait pas même les toits, était d'ailleurs complètement isolée, et il n'y avait pas moyen de se renseigner auprès des voisins. « Jacques, dit Raoul, je suis content de toi. Ce que tu as fait cette nuit est bien fait, mais il faut continuer. » Le valet fit un signe affirmatif. « Tu comprends tout ce qui nous reste à savoir, » poursuivit Monsieur de la Tremblée. « D'abord, répondit Jacques, le nom de la personne à qui appartiennent ce jardin et l'hôtel, qui sans aucun doute se trouve au milieu. « Peut-être, dit Raoul, ce nom m'apprendra-t-il bien des choses. « Monsieur le Chevalier, je le saurai. « Quand ? Le plus tôt possible, avant ce soir si je puis. « Bien. « Monsieur le Chevalier a-t-il besoin de moi maintenant ? Pourquoi cette question ? Parce que, dans le cas contraire, je resterai par ici, puisque j'y suis. » « Reste, dit Raoul. » Et il rentra seul à son hôtel.